Aser, on va bientôt finir. Aser, la tribu d'Aser. Aser signifie heureux. Ah, j'aime cette tribu. Heureux. C'est des personnes toujours joyeuses. Être heureux, être droit, être honnête, aller de l'avant, prospérer, bénir, guider. Ça, c'est Aser. Aser a appris à être heureux dans les temps d'épreuve. Donc, il affectionne l'apôtre Jacques. Parce que l'apôtre Jacques nous enseigne comment être heureux au sein de l'épreuve. Il a certainement, dans son époque, lu prophétiquement l'épître de Jacques avant que ça ne soit écrit. Alléluia. Donc, si tu es à Sérite, tu es quelqu'un de joyeux, comme le pasteur Sosten. Toujours joyeux, tout va bien. Alléluia. Toujours le sourire prêt à atteindre les oreilles. Alléluia. Et cette joie fait leur force. Le symbole de cette tribu, c'est un arbre, un olivier verdoyant. Un arbre, l'olivier, un grand olivier. C'est normal qu'il soit toujours joyeux, parce que l'olivier produit des olives, donc produit de l'huile. Or, l'huile est le symbole de la joie, et l'huile est le symbole du Saint-Esprit de l'onction. C'est une tribu, c'est un type de personnalité qui est familiarisée à la joie, qui est familiarisée à l'onction, au Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton frère, sois un assérite. Sois toujours joyeux. Il y a la tribu d'Issacar. Issacar signifie le fruit de la semence. Issacar, fruit de la semence. Celui qui apporte la récompense. Ses traits de caractère, c'est quelqu'un qui ne chancelle jamais. Quelqu'un qui va toujours de l'avant. Quelqu'un qui est fécond, parce que c'est le fruit de la semence. Il est fécond, il est productif. Il porte du fruit en toute saison. Ah, c'est Issacar. Et pourquoi il porte du fruit en toute saison? Parce qu'en lui, il y a le sens du discernement. Issacar sait discerner les temps et les saisons. Voilà pourquoi il arrive à voir les saisons favorables et il porte son fruit en toute saison. Alléluia! Le symbole de cette tribu, c'est un âne tout humble, mais robuste. Un âne tout humble, mais robuste. Cela représente des hommes matures, des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ, des hommes forts spirituellement, des géants spirituels grands, dotés de plein de talents, de dons, plein d'onction, robustes, mais humbles. Humbles. Humble. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu leur donne le discernement. La destinée prophétique de cette tribu, c'est des gens qui sont appelés à occuper des postes de leadership. C'est des Timothée. Sois un modèle en parole, en conduite, en foi, en comportement. C'est des Timothée. C'est des Paul aussi. Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Tous les serviteurs de Dieu devraient avoir ces traits de caractère en eux. Ils devaient être des Issacar. Parce que dans la maison de Dieu, on en a besoin des Issacar. Cette tribu a donné naissance à des vocations telles que des intercesseurs, des sentinelles, des veilleurs de nuit sur le plan spirituel, des prophètes, des gens qui ont les dons de révélation, des dons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Et je pense que quelque part, Salomon devait avoir le trait de caractère d'Issacar, Parce que la sagesse qu'il avait, mon Dieu. Les chefs d'entreprise, les hommes politiques, les gouverneurs, tous devaient avoir l'esprit d'Issacar. Tous devaient rechercher l'esprit d'Issacar. La tribu de Zabulon. Je précise que toutes ces tribus-là, vous trouverez les références dans Genèse chapitre 30 et Genèse chapitre 49. Je nage entre ces deux passages-là. Vous lirez Genèse chapitre 30 et Genèse chapitre 49. Vous allez trouver toutes ces tribus avec leur description. Genèse chapitre 30 et Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 30 donne la définition et Genèse chapitre 49 donne la destinée prophétique. Zabulon signifie « don de Dieu ». Son symbole, c'est un manteau, mais plutôt un bateau. Les Zabulonites sont des voyageurs. Bon, je ne parle pas de nos amis voyageurs que vous connaissez, hein? Quoique, on ne sait jamais. Parce que franchement, je me suis posé toujours la question de savoir d'où est-ce qu'ils reviennent. Et j'ai l'impression que les Gitans sont un peuple dont parle la Bible. Mais je n'ai pas encore très creusé là-dessus. Bon, bref, on ferme la parenthèse. Donc, ils aiment les voyages sur le bateau. Le Zabulonite se tient au bord de la mer, sur les côtes, et il regarde l'horizon. De l'autre côté, il commence à rêver. Il rêve. Il commence à rêver d'être de l'autre côté du fleuve et de connaître qu'est-ce qui se passe derrière. Voici un Zabulonite, quelqu'un qui a le sens de la découverte, l'esprit de curiosité, la bonne curiosité. Et Dieu utilise facilement ce type de personnalité dans des appels missionnaires, également dans tout ce qui est vision internationale. Si tu es un Zabulonite, tu n'as pas peur des voyages. Tu n'as pas peur de l'eau. C'est peut-être qu'à cause de ça que Jésus aimait prendre la pirogue. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, la pirogue, c'était bien aimé, c'était quelque chose de rare. C'était quelque chose de... Quand tu avais la pirogue, c'était prestigieux. C'est comme quand tu as le jet privé aujourd'hui, en fait. C'est un symbole de richesse. Ce n'est pas n'importe qui avait la pirogue. C'est pourquoi je dis souvent que si Jésus avait vécu à notre époque, je suis sûr qu'il devait avoir un jet privé. Mais Jésus aimait aller sur l'eau. Et il voyageait beaucoup avec ses disciples. Il enseignait sur l'eau, sur la pirogue. Les Zabulonites sont des peuples marins. Ça symbolise aussi le commerce, le transport maritime. Vous savez que 90% de l'économie mondiale passe par la mer. Donc, les Zabulonites sont des véritables économistes, des véritables commerçants, des hommes d'affaires. Commerce international. Si tu rêves toujours, commerce international, tu veux faire du commerce international, tu veux faire des études dans le commerce international, ta vision est celle-là. Chaque fois qu'il y a des vacances, tu rêves. Où est-ce que je vais aller passer mes vacances? J'ai envie de faire un bain linguistique en Afrique du Sud. J'aimerais aller en Angleterre, j'aimerais aller aux États-Unis. Tu es peut-être un Zabulonite. C'est pas mauvais. Tu as une carrière certainement internationale et je t'encourage. Vas-y, fonce, mais dans la sagesse de Dieu surtout, parce que parfois on rêve tellement que nos rêves parfois peuvent se transformer en cauchemar, mais je ne le souhaite pas pour toi. Il faut que tu sois dans les rêves de Dieu pour ta destinée. Alléluia! Donc, Zabulon se tient au bord des fleuves, sur les côtes, et il aiguise le sens de ses rêves, le sens de son aventure, le goût de l'aventure en lui, au travers effectivement de la contemplation. Il aime contempler la nature. Ça, c'est Zabulon. Il aime regarder la nature, il aime voir ce qu'il y a dans la nature. Et ça, c'est un trait de caractère de quelqu'un qui reconnaît les œuvres de l'Éternel, qui sait louer Dieu. Donc, en lui, il y a certainement ce côté-là. Parce que la Bible déclare que la nature entière témoigne des œuvres de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Et les arbres, les champs battent les mains. Et la créature entière loue l'Éternel, loue le Seigneur. Donc, je crois que quand Zabulon se tient au bord des côtes, il ne contemple pas seulement l'horizon juste pour rêver, voyager, mais il contemple également l'horizon comme étant une créature de Dieu. Et c'est tellement beau. Et il adore le Seigneur comme ça. Il aime le Seigneur. Voyez-vous, quand vous avez toujours tendance à sortir, vous n'aimez pas toujours rester entre les quatre murs, vous avez toujours tendance à sortir parfois pour prendre un peu de l'air et aller dans un parc, aller réfléchir au sujet de votre vie, de votre destinée, et parfois méditer la parole de Dieu dans un espace un peu plus aéré. Vous êtes peut-être un Zabulonite. Parce que beaucoup de personnes ont créé des formules comme ça et ont lancé des théories dans le monde du fait simplement de la contemplation de la nature. Alléluia. Alléluia. Qui a inventé la loi de la pesanteur? Newton. Vous connaissez l'histoire de Newton, non? Il marchait, il contemplait la nature, il marchait. Et il passe sous un arbre, un pommier, et puis la pomme tombe sur lui. Et ça l'a ouvert une perspective. Alléluia. Et il analysait, il dit, mais attends, la pomme, paf, il prend. Il a compris. Tout objet qu'on lance vers le haut revient toujours vers le bas. On appelait ça la loi de la pesanteur. Et moi, ça m'arrive parfois. Je crois que j'ai quand même des traits de caractère, de personnalité de Zabulon. Quelque part, je suis certainement un Zabulonite parce que j'aime prendre de l'air parfois. Il y a des messages, je les prépare dans ma voiture ou bien en marchant. Je suis parfois avec mon fils au McDonald's. Un samedi, je sente de jouer avec lui. Encore aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai pas pu être à l'atelier. Hein. C'était la fête de son anniversaire en différé. Donc voilà, il fallait que je joue avec lui. Il était tout content. Au McDonald's, il a choisi le McDo. Comme d'habitude. Alléluia! Et quand j'y vais, je contemple, je vois des choses qui se passent. Je regarde comment les hommes se comportent, le comportement des gens, leurs réactions, leur expression de visage, comment ils sont hors de chez eux. Et ça m'enseigne beaucoup de choses. Et quand je relis la parole de Dieu, je dis, oui, Seigneur, c'est vrai que l'homme reste l'homme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, a dit le sage Salomon. Et ça me permet de pouvoir tirer des leçons et de pouvoir tirer des illustrations que je transforme en messages et que je vais vous enseigner par la contemplation, l'observation, l'étude de l'homme, des comportements humains, de la nature, de la création, des événements aussi. Hein. Ça, c'est un Zabulonite. Il trouve en toutes ces choses que Dieu a créées une source d'inspiration. Et il s'en sert pour louer Dieu, il s'en sert pour lui être reconnaissant, il s'en sert pour comme un instrument qui va changer sa vie, sa façon de voir les choses, qui va l'amener effectivement aussi à découvrir de nouveaux horizons. Parce que c'est quand même un aventurier, hein, Zabulon. Donc la destinée prophétique de Zabulon est attachée à la conquête de la nation. Et c'est dans Deutéronome chapitre 39, 33, autant pour moi, Deutéronome 33, versets 18 à 19, hein, Deutéronome 33, 18 à 19, que nous voyons cela. Zabulon est attaché à la conquête des nations. Vous lirez cela à la maison. Je suis en train d'essayer de rattraper le temps. Donc, si vous aimez la conquête des nations, si vous avez le goût de l'aventure, vous aimez la conquête des nations, vous êtes donc quelqu'un qui a en lui un trait de caractère ou un type de personnalité zabulonite. Et c'est bien ce caractère, développez-le, ça a donné naissance à des carrières telles que les négociateurs internationaux, telles que les médiateurs internationaux, telles que les ambassadeurs, les carrières diplomatiques. Alléluia. Des vendeurs internationaux, des commerciaux internationaux. Enfin, tout ce qui est international, quoi. Onzième tribu, la tribu de Manassé. Alors, Manassé signifie celui qui permet d'oublier les souffrances. Celui qui permet d'oublier les souffrances. Les gens de Manassé sont de la race de ceux qui ont un ministère de relations d'aide et de réconciliation. Ce sont des ministères de restauration de cœur. Et dans la maison de Dieu, on en a besoin. Parce qu'il y a tellement de cœurs brisés qu'on a besoin des gens pour soutenir ceux qui ont le cœur brisé. Des gens qui sont sous le poids du joug de la dépression, le joug des blessures intérieures, de la déception. Et on a besoin des gens de Manassé pour ce ministère-là. Le symbole de la tribu de Manassé, c'est un palmier royal. Vous lirez cela dans Psaume chapitre 92, verset 13. La particularité de cet arbre, le palmier royal, il se distingue des autres du fait que c'est un arbre qui porte son fruit durant sa vieillesse. Il porte du bon fruit durant sa vieillesse. En fait, il porte son fruit jusqu'à sa vieillesse. Voilà, c'est surtout ça. Et surtout, pendant sa vieillesse, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que Manassé est rigide, comme un palmier royal. Il est rigide. Mais cette rigidité n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Parce que c'est l'expression d'une carrure intérieure d'un homme qui atteint une certaine maturité du fait du poids de son âge, certainement, des expériences de la vie. Et il a certainement fait beaucoup d'erreurs dans la vie. C'est l'une des personnes qui a appris à obéir au bout de 2, 3, 4 injonctions de la part de Dieu. Après s'être cassé la tête plusieurs fois, il a appris comme Salomon. Et à la fin, il devient un arbre, il devient un palmier royal. Et difficile à déraciner, difficile à renverser. Il est planté, il est là. Il ne bouge pas dans la maison de Dieu. C'est un pilier dans la maison de Dieu. C'est une colonne dans son temple. Ce sont des gens qui ont le ministère de père dans l'église. Des gens qui peuvent enseigner les jeunes garçons, les jeunes filles sur les choses de la vie. Des gens qui peuvent enseigner les couples et les rendre solides. C'est ce type de personnes dont on a besoin pour être des anciens dans l'église, des assistants pasteurs. Ils sont capables de former des leaders, capables de former des couples, capables d'épauler les pasteurs. Alléluia. Seulement, cette rigidité, même si c'était un avantage quelque part, parce que face à l'ennemi, ils ne vont pas facilement trébucher, ils vont être solides. Quand l'ennemi va envoyer des flèches, ils vont résister. Ils vont durcir leur front en face de leurs adversaires. Mais s'ils ne font pas attention, cette rigidité peut également être un obstacle à l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Ils sont tellement rigides, ils ont tellement appris des choses, tellement d'expériences dans la vie, qu'ils deviennent très prudents. Et c'est le genre de personnes qui doivent très faire attention parce que quand il y a un mouvement de l'esprit qui paraît assez nouveau dans l'église, ils sont très méfiants. Et ils commencent à vouloir tout canaliser, tout gérer, tout contrôler. Bien sûr, animés de bonnes intentions, mais parfois, ne sachant pas que parfois dans les derniers temps, Dieu peut faire quelque chose de nouveau, ils peuvent passer à côté de l'action du Saint-Esprit sur un aspect bien précis et vouloir stopper l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ou dans l'Église. C'est ce qui a donné naissance à la religion. Les principes, les règles rigides. Je pense que c'est bien d'avoir des règles. C'est bien d'avoir des lois, c'est bien d'avoir une organisation de l'ordre dans l'Église, mais c'est aussi bien de laisser la place au Saint-Esprit pour être flexible, avoir de la souplesse. Et ce trait de caractère peut être un obstacle à ça. Si tu es de la tribu de Manassé, tu dois faire attention à cela par rapport à ta destinée. Parce que parfois Dieu peut te parler et tu ne suis pas le mouvement de l'esprit, tu résistes parce que tu es rigide, extrémiste parfois dans les bornes. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je suis quelqu'un, parfois je surprends certaines personnes devant une situation similaire. J'ai en face de moi deux personnes. Une personne qui est tombée dans le péché, de la fornication, et que je reçois comme pasteur en entretien. Et je discute avec la personne, et la personne m'expliquait vraiment, voici ce qui s'est passé, pasteur, vraiment je suis attristé, etc., etc. Et pendant que je parle avec la personne, le Saint-Esprit me dit vraiment, prends-la dans tes bras, console-la, encourage-la, vraiment, dis-lui que ça va aller, le juste tombe sept fois, il se relève, ça va aller, tiens bon, tu iras loin avec le Seigneur. Ton acte déjà est très appréciable, tu es venu, tu n'as pas caché ton péché, tu t'es repenti, c'est louable. Et quelques temps plus tard, il y a une autre personne qui vient me voir avec la même situation, le même problème. Il dit, pasteur, vraiment, je suis tombé dans le péché, etc. Et là, dans mon cœur, je sens le Saint-Esprit irrité, complètement irrité. Et je sens comme une sainte colère qui monte. Et l'Esprit qui me dit, reprends-le sévèrement. Et je le reprends sévèrement, je le recadre. Et si possible, même, je le sanctionne. Alors, s'il y a quelqu'un qui est là à côté, qui observe, qui va se mettre, c'est pas possible, ce pasteur-là, mais c'est pas possible, il est injuste, hein. C'est pas normal, hein. Quand c'était tel, franchement, il fallait le voir. Hein? Mais là, franchement, je pense quand même qu'il y a du favoritisme dans cette église. Hein? Moi, je pense qu'il n'y a pas l'amour. Hein? Ce pasteur-là, il n'est pas... Non! C'est juste que dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre et des principes à appliquer. Mais parfois, devant la situation, le Saint-Esprit te dit, fais ça. Et le prophète Fletcher, qui est mon père spirituel, mon mentor, dans le domaine prophétique, lorsqu'il est venu me consacrer, il a fait un message. Chaque fois, il me disait, ce message-là, c'est pour toi. Il a enseigné sur la danse du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La danse du Saint-Esprit. Et il a démontré que le Saint-Esprit, c'est comme ça. Il fait 1, 2, 3, 4. Et il faut suivre. Alors, ça m'a fait penser à un exercice qu'on fait lorsqu'on fait des cours de formation en communication. Et je vais vous faire rire un petit peu. Qu'est-ce que je vais choisir là? Allez, Sœur Jessica, viens me voir. Alors, c'est quand on veut travailler sur l'écoute. On veut travailler sur l'écoute. Parce que l'écoute est très importante. Si tu veux travailler avec le Saint-Esprit, 1, 2, 3, 4, il faut être à l'écoute. C'est très important. Alors, je vais voir si tu as réellement l'écoute. Ok? Tu vas essayer de reproduire la même chose que moi. Tu essaies de reproduire la même chose que moi. Alors, tu vas faire ça. Regarde le peuple. Regarde-moi. Et tu vas faire ça. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle a trouvé? Non. On reprend. Le dernier. 1, 2, 3, 4. Non, pourquoi? Elle a reproduit l'enchaînement, sauf que ce n'était pas avec le même pied. Qu'est-ce qui l'a trompé selon vous? Le face-à-face. C'est comme ça quand on a que le Saint-Esprit. On a que le Saint-Esprit face-à-face. C'est le miroir. Seulement on oublie que notre pied gauche n'est pas son pied gauche. Vous comprenez? Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes, même les prophètes. Donc c'est important d'être attentif. Dans les moindres détails, tu peux reproduire le schéma, mais louper le détail. Quel pied c'était? Ah, c'est fort. Donc la danse de cet esprit m'a beaucoup enseigné et je prie Dieu vraiment, et jusqu'à présent je travaille dessus. Alléluia. Parce que je ne veux pas être un Manassé qui est tellement rigide et qui fait toujours comme ça, toujours comme ça, toujours comme ça.
Que quelqu'un acclame le Seigneur.
La destinée prophétique de Manassé, dans Genèse 48, verset 5, ce sont des héritiers de Jacob. Ils ont hérité de Jacob, leur père. C'est comme Éphraïm. Éphraïm et Manassé ont la même destinée. Donc, Je vous épargnerai de parler d'Éphraïm parce que c'est la même chose. Éphraïm et Manassé font partie de la même tribu, c'est la tribu de Joseph. Ils ont pour héritage Jacob, leur père. Et ils ont également hérité de la bénédiction de Jacob. Jacob a béni Éphraïm et Manassé au même moment. Bon, je vous passe les détails parce qu'après, il y a eu un détail où effectivement, Jacob a plus béni le petit frère, donc Éphraïm. Et du coup, ça a mis Joseph en colère. Donc, Joseph a voulu changer la main. Non, il a dit, je sais ce que je fais, même si je suis aveugle. Ce sont mes derniers jours, mais je sais ce que je fais. Je sais que c'est vraiment le petit, mais c'est lui que je vais donner un peu plus. On ne sait jamais pourquoi, dans la Bible, Dieu a toujours béni de façon particulière les derniers, les fils cadets. Bon, Dieu même sait pourquoi. Et c'est pourquoi ça a souvent suscité des jalousies, parce que les aînés, mais c'est quoi cette histoire? Quand vous lisez la Bible, les fils cadets ont toujours été plus bénis. Toujours, mais qu'est-ce que vous voulez? Les premiers seront les derniers. Alléluia. Et puis les aînés doivent accepter cela, que les cadets dépassent, c'est normal. Ben oui. Par contre, la gloire des aînés, c'est d'avoir formé les cadets. Quand tu regardes ton cadet, tu te dis, waouh, ça c'est moi ça. Bon, ça là, c'est sa valeur ajoutée. Mais sans moi, il n'aurait pas pu arriver là quand même. Donc, assois-toi la gloire. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Assois-toi. Non, quelqu'un n'a pas compris. Généralement, on dit, à toi soit la gloire. Pour ceux qui veulent prendre la gloire. Mais quand quelqu'un ne veut pas prendre la gloire, on dit, assois-toi. Assois-toi. Quand quelqu'un veut se lever un peu tout seul, on dit, assois-toi la gloire. C'est un jeu de mots. Pour Dieu, ne t'élève pas, rabaisse-toi. Et Dieu te lèvera. Alléluia. Dernière tribu, la tribu des Benjamins. Benjamin. Les Benjamites. Au départ, Benjamin s'appelait Ben-Oni. C'est le fils de Rachel qu'elle a fait avant de mourir. Ben-Oni qui signifie « fils de mon iniquité ». Pourquoi? Parce que Rachel, lorsque Jacob est parti de chez Laban, Rachel a pris les idoles de son père et l'a caché avec elle. Et Laban a poursuivi Jacob. Jacob était prêt à mettre sa main à couper. D'ailleurs, il l'a fait. Il a dit, tu peux fouiller partout dans cette tente-là, dans cette maison. Il n'y a personne au milieu de nous qui a pris tes idoles. Rachel, tellement cachotière, tellement malicieuse, rusée, va s'asseoir sur les idoles. Et quand son père va rentrer dans la tente, elle va dire, papa, excuse-moi, je ne pourrai pas me lever parce que j'ai ce que toutes les femmes ont à certaines périodes. Le père a dit, ah, pardon, respect. Donc, il n'a pas fouillé Rachel. Mais Rachel avait caché ces idoles-là. Mais c'est après, effectivement, que Jacob a découvert cela. Qu'est-ce que ça a valu à Jacob, à Rachel? Ça a valu à Rachel la mort. Parce que le fait qu'elle accouche difficilement et qu'elle meure à son accouchement, c'est la malédiction. Voilà pourquoi elle appelle cet enfant fils de mon iniquité. Et Jacob n'a pas voulu accepter cette destinée sur son fils, donc il a changé le nom de Ben-Oni en Benjamin, qui veut dire fils chanceux. Bon, nous les chrétiens, on dirait fils de la grâce, qui porte la faveur de Dieu. Le symbole de cette tribu, c'est le loup. Dans Genèse 49, verset 27, les Benjamites sont de type de personnalité très, très vigilante. Ils ont un caractère de loup. Mais quand c'est utilisé à la maison de Dieu, c'est des gens qui sont très protecteurs, sont très vigilants et très protecteurs, défenseurs des causes de Dieu. Ils sont prêts à sauter, à bonder pour défendre les causes de Dieu. Ce caractère-là, on en a besoin à la maison de Dieu. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a dit un jour, il dit, frère, le protocole dans la maison de Dieu, c'est important. C'est important. Tu sais, mon frère, un jour, il y a des païens qui ont débarqué dans mon église. Ils voulaient me frapper. Parce que parmi eux, il y a eu une personne qui a perdu sa copine, qui s'est convertie, et la copine l'a abandonnée. Et donc, il est venu, en colère, il voulait frapper le pasteur. Et quand il sort lors d'un culte comme ça, ils arrivent en bande, en troupe. Au moins, ils veulent se jeter sur le pasteur comme ça. Il y a un Benjamite qui était à côté du pasteur, qui s'interpose. Un ancien bagarreur, converti en frère en Christ, grand, costaud et fort. Il se positionne comme ça. Et il pousse le pasteur. Il dit, le premier courageux avance. Que le premier avance. Les premiers coups, c'est moi qui les encaisse. Et vu la posture de la personne, les pauvres jeunes garçons du quartier qui voulaient faire la fête au pasteur ne pouvaient plus avancer. Ils étaient là tout tremblants. Il dit, avancez. Avancez. Après, j'ai dit, mais pasteur, mais c'est pas sérieux quand même, là, c'est la chair. Il dit, mon frère, c'est un Benjamite. Il défend la cause du royaume de Dieu. Prêt à se battre pour son pasteur. Qui est prêt à se battre pour son pasteur ici? Ah, il n'y a qu'une. Ah, quand même, il n'y a que les femmes, mais les hommes. Non, c'est pas possible. Mais quand même, enfin, ah, quand même, l'évangile victoire. Ah, ah, quand même. Alléluia. Oui. Mais c'est sérieux, ces choses-là. Vous savez, là encore, c'est extension. C'est extension. Un jour, j'ai posé la question à mon père spirituel. J'ai dit, bon, attends, dis-moi un peu. Il nous faisait les cours sur le mariage. J'ai dit, moi un peu. En fait, si tu arrives comme ça un jour, tu trouves que quelqu'un est en train de battre ta femme, tu fais quoi? Il dit, ah non, 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 ça n'arrivera jamais. J'ai dit, mais non, mais imagine que ça arrive, tu fais comment? Il dit, non, 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 ça ne va pas arriver, ça va pas arriver. Il ne voulait pas y penser. Mais moi, j'ai osé extension à y penser. Je dis, mais si ça arrive, je fais quoi? Mais attention, le jour où je l'ai amené à la mairie, le maire m'a posé la question. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, acceptes-tu de prendre pour épouse mademoiselle Kenge Nina Lisette Mabouadi? Oui, elle s'appelle. Non, ah oui. Bon, tu vois, la fusion est déjà tellement forte que. C'est vrai, t'as raison, ça ne s'appelle pas comme Abouadi. C'est l'effet du mariage, là. Acceptez-vous de prendre mademoiselle Kenge Nina Lisette, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, jusqu'à ce que. Moi, j'ai dit jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alléluia! J'ai dit oui, monsieur le maire. Donc, la protéger devant n'importe quelle situation, je la protège. S'il faut me battre pour ma femme, je vais me battre. Alléluia! Donc, s'il y a un région là, c'est mais le pasteur là, vraiment. Oh, quel pasteur! Oui, on se bat. Touchez pas ma femme! Ah, my wife! Ah, non! C'est comme my children! No touch. No touch. Stop, stop. Away, away, away. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Away. Gloire à Dieu. Donc, rapidement, les Benjamites, malgré leur caractère de loup, en fait, c'est des personnes qui sont aussi tendres d'un côté. OK? Donc, c'est des personnes qui ont une destinée prophétique dans Deutéronome, chapitre 33, verset 12. C'est des personnes qui sont appelées bien-aimées de l'Éternel. C'est des personnes qui affectionnent aussi l'intimité avec Dieu. Et dans la maison de Dieu, on a besoin de gens comme ça, qui sont durs de caractère, forts de caractère, rigides, mais aussi qui affectionnent la présence de Dieu. C'est un petit peu comme la tribu de Manassé, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons tous nous lever, gloire à Dieu. Nous venons d'étudier les 12 personnalités bibliques que Dieu nous présente. Je ne sais pas, tu t'es certainement retrouvé quelque part. Le plus important pour toi, c'est de comprendre que tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas compris le type de personnalité que tu es. Et le but ici n'est pas de faire en sorte que tu sois dans une tribu bien spécifique, mais c'est de comprendre que dans chaque trait de caractère de chaque tribu, il y a des éléments qui correspondent à cette personnalité que Dieu veut te donner pour accomplir ta destinée. Alléluia! Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu t'a parlé durant ce message. Et ce message a été conçu de façon très particulière. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez l'enseignement, l'instruction. En même temps, vous avez les révélations. En même temps, vous avez la description du portrait de caractère. Donc, vous pouvez vous retrouver. Alléluia. En même temps, il y a la dimension prophétique de ce que Dieu est en train de projeter sur votre destinée en ce qui vous concerne par rapport à votre type de personnalité. Alléluia. Donc, vous n'avez même plus besoin que je prophétise sur vous parce que la prophétie est passée. Dis à ton frère, c'est passé. Si tu n'as pas saisi, c'est grave, c'est passé. Prends le CD peut-être, le DVD. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui te concernent là. Non, il ne te reste plus qu'à travailler derrière pour transformer tes faiblesses en force, ton caractère en personnalité que Dieu veut utiliser afin d'accomplir ta destinée. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous levons nos mains vers le ciel et bénissons le Seigneur. Que quelqu'un dise quelque chose à Dieu ce soir. Alléluia. Mon Dieu, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. De ce que tu m'as enseigné ce soir. Je voudrais comprendre au travers de cette description qui réellement je suis. Je voudrais que tu apprennes à m'aider à développer, que j'apprenne à développer le type de personnalité que tu veux que je puisse avoir. Parce que dans ma destinée, tu as prévu un type de personnalité pour accomplir des œuvres bien précises sur la terre que tu as préparé d'avance pour moi, pour mon ministère. C'est pour cela que tu m'as donné des dons. Et ces dons fusionnent avec ma personnalité. Aide-moi à me construire la personnalité, le type de personnalité que tu veux que je puisse avoir afin d'accomplir ta destinée sur la terre. Afin d'accomplir ma destinée sur la terre. Afin d'accomplir tes œuvres sur la terre. Merci Seigneur mon Dieu. Merci. Lèvons nos mains vers le ciel. Lèvons nos mains. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Kore baba sakata baba. Est-ce que tu peux enfanter ta destinée? Alléluia Seigneur. Kore baba khanakaba. Est-ce que tu peux encore prier pour toi afin que Dieu te montre dans ta vie tous tes traits de caractère, toutes tes faiblesses, tous tes manquements, mais aussi toutes tes forces au niveau de ta personnalité, afin que Dieu te montre au travers de cet enseignement ce qu'il y a à enlever de ta personnalité et ce qu'il y a à ajouter en toi pour que tu revêtes la personnalité que Dieu veut que tu puisses avoir afin d'accomplir ta destinée sur la terre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, erreur et mort, foulé par nos pieds, et tu as souffert. Tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté. Oh, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. J'aimerais que tu puisses prophétiser quelque chose au sujet de ta destinée. Que tu dises quelque chose au sujet de ta vie. Parle. Parle sur ta vie. Parle sur ta destinée. Parle par rapport à tes faiblesses afin qu'elles deviennent des forces. Parle par rapport à tes traits de caractère. Parle comme David pouvait parler à son âme. Parle. Dis quelque chose à ton sujet. Dis quelque chose à ton sujet. Parle. Parle. Dis quelque chose à ton sujet. Dieu est en train de t'introduire dans une nouvelle dimension afin de te transformer, afin de changer le type de personnalité que tu es aujourd'hui pour que tu deviennes la personne qu'il veut que tu sois. Alors, crie à Dieu. Parle. Parle à cette colère qui t'a toujours lié depuis longtemps. Parle à cette faiblesse qui t'a toujours ramené vers le bas. Parle à ce caractère fragile qui t'a toujours entraîné dans l'échec. Parle à ce tempérament, à ce caractère toujours facilement démotivé, facilement se décourage. Dis à partir d'aujourd'hui, je revais le caractère d'homme fort. Je ne veux plus me décourager à tout bout de champ. Je ne veux plus être quelqu'un qui se laisse facilement décourager par les circonstances de la vie. Mais je voudrais revêtir une personnalité, un caractère tel que Dieu veut que je puisse l'avoir. Parce que les dons que Dieu a mis en moi sont des dons pour gouverner, sont des dons pour régner dans la sphère où Dieu m'a placé. Alors j'ai besoin de revêtir un type de personnalité plein d'audace, qui a le goût de l'aventure, qui ne craint pas l'aventure, qui n'a pas peur de l'inconnu. Quelqu'un qui a le caractère d'un jeune lion, qui est plein d'assurance, plein d'autorité, plein de fougue, de foi, de feu. Quelqu'un qui ne recule pas devant les circonstances de la vie, qui n'a pas peur des épreuves, mais qui les affronte et qui les transforme en opportunité d'émergence afin d'accomplir sa destinée sur la terre. Seigneur, fais de moi cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'a pas laissé le poids des épreuves, des souffrances, des expériences du passé détruire sa personnalité. Mais au contraire, qui a fait de ces situations des instruments pour construire sa vie et sa destinée, émerger et réussir dans la vie. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Parce que c'est ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère. C'est ce que tu es en train de faire dans la vie de ma sœur. C'est ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. En cette fin d'année, ma prière est de voir des hommes et des femmes dans cette église être transformés par la puissance du Saint-Esprit dans leur caractère, dans leur tempérament, dans leur conduite, dans leur faiblesse. Seigneur, être transformés dans leur personnalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que l'Église suive ta lance en cette fin d'année et en cette demi-année 2010 puisse revêtir la personnalité de Dieu pour chaque membre, pour chacun d'entre eux, Seigneur, oh Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens transformer nos personnalités. Et donne-nous de revêtir ta personnalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.